avec ces versets de Romains 5, tout est dit. C'est aussi la découverte de Martin Luther qui fut ce grand réformateur de l'Église au XVIe siècle. C'est la grâce qui sauve et seulement la grâce. Ce ne sont pas les bonnes œuvres, les confessions de foi, les églises, les prêtres, les pasteurs. Ceci est une grande conviction de Martin Luther. Elle est aussi au cœur des grands principes du protestantisme. Soit c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Tout est grâce et nous n'y sommes pour rien. Aujourd'hui, nous sommes au mois d'octobre, proche du 31. Et c'est le temps de fêter la Réforme. Et fêter la Réforme, c'est fêter cette grande conviction qui nous anime. C'est fêter l'essentiel de l'Évangile. En effet, c'est le 31 octobre 1517 que Luther affiche les 95 thèses à l'église de Wittenberg pour dénoncer la pratique des indulgences. C'est l'acte de naissance du protestantisme. C'est aussi pour nous le moment de nous arrêter pour revisiter l'histoire, pour mieux considérer l'essentiel de la bonne nouvelle. Parfois, il est bon d'ouvrir les yeux sur les miracles dans l'histoire pour que nous puissions en retirer un enseignement quant à notre cheminement spirituel. Oui, tout concourt au bien de ceux qui cherchent Dieu, ou qui aiment Dieu. Alors je vous invite ce matin à une rencontre avec Dieu sous un angle inhabituel, en intégrant l'histoire, celle du christianisme, celle du protestantisme. Nous aurons alors une meilleure compréhension du miracle de la grâce. Laissons-nous donc conduire dans ce voyage dans le temps. Miracle du christianisme. Du christianisme, pas du protestantisme, du christianisme. Merci. À la seule lecture du Nouveau Testament, nous pourrions croire que le christianisme est né et puis s'est développé sereinement, de Jérusalem jusqu'à Rome, en passant par la Grèce. Effectivement, il y a eu des persécutions, mais ça n'a pas perturbé son établissement. Voilà ce qu'on peut imaginer. En réalité, en considérant en particulier ce verset, Dieu a choisi les choses faibles du monde. Dieu sauve par la folie de la prédication. On devine qu'il y a un réel enjeu, un combat déterminant. Et à ce titre, l'analyse du contexte historique va nous convaincre dans la dimension miraculeuse de l'implantation du christianisme. Nous allons voir donc ce contexte historique. L'émergence du christianisme s'inscrit dans le monde gréco-romain. Et dans ce cadre, culturellement, il est d'usage lors de l'ascension au trône de l'empereur de proclamer son évangile, sa bonne nouvelle de paix, de prospérité, de justice. Et donc en tant que telle, la bonne nouvelle des chrétiens est théoriquement bien accueillie. Bien considéré. Mais ils n'adorent pas l'empereur. Ils adorent un criminel condamné au supplice sur la croix. Et alors, en conséquence, les Romains assimilent les chrétiens à une secte. Secte qui doit plutôt disparaître. Ils le seront aussi de la part des Juifs. Si à l'origine ils étaient intégrés dans la pratique de la religion juive, les relations se sont détériorées pour devenir irréconciliables. Le point de discorde fondamental concerne l'historicité de la venue de Jésus. Là, le salut n'est plus une promesse à venir, car tout est accompli. En tenant compte de ces deux éléments historiques, l'émergence du christianisme semble vouée à l'échec. Ce tableau nous montre là une sombre réalité. Pourtant, pourtant Dieu agit. Dieu agit au sein de la discorde. C'est le deuxième point. Il agit au sein de... En 49, c'est le concile de Jérusalem. Pierre et Paul, dans leur discours, posent les fondements du christianisme et du Nouveau Testament. Le christianisme est une religion universaliste, avec des convictions irréconciliables avec la religion juive. C'est ce qui est écrit d'ailleurs dans le livre des Actes. C'est aussi, et alors, la justification du Nouveau Testament. Alors, Jésus, que l'Ancien Testament. Et voilà qu'apparaît le Nouveau Testament. On rédige donc à partir de cette période les évangiles, les épîtres. Puis en 180, bien plus tard, c'est la formation du canon. Dans le foisonnement des textes, il s'agissait d'établir une liste. C'est le fruit d'un long processus pour affirmer définitivement l'inhérence des Écritures, sa fiabilité, sa cohérence dans la pluralité. Après cette longue histoire, deux siècles, nous pouvons mesurer davantage la réalité de ce mystère en termes de transmission des Écritures. C'est là le premier miracle. Ensuite, c'est la naissance. Cette naissance est aussi un miracle. Car comme nous l'avons vu, compte tenu du contexte hostile, rien n'est propice pour son implantation. Pour rappel, donc, en 49, la coupure inéluctable du judaïsme avec le christianisme, qui à sa naissance en Palestine est considérée comme une secte. En 64, à Rome, c'est les persécutions qui se généralisent. Alors comment comprendre que dans ce premier siècle, le christianisme va naître? Sinon, il s'agit bien d'un miracle. Miracle historique, miracle de la volonté de Dieu. Un peu plus loin, c'est donc l'établissement du christianisme. Pour résumer donc, au premier siècle, miracle de la naissance. Au deuxième, miracle de la formation du canon des Écritures. Et ensuite, Dieu agit encore. Au troisième et quatrième siècle, un changement fondamental intervient. Le christianisme, jusqu'alors pourchassé et toléré, et bientôt devient officialisé. Cette révolution intervient grâce à l'empereur Constantin, qui par sa foi et son engagement peut permettre l'établissement pérenne du christianisme. Il règne sur l'Occident, mais il a surtout unifié l'Église. Unifié au plan théologique par une avancée fondamentale sur le caractère trinitaire de Dieu. Par le Saint-Esprit, il nous est possible de connaître Dieu par celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. D'ailleurs, encore aujourd'hui, nous déclarons tous notre conviction dans le symbole dit de Nicée-Constantinople. Nous appelons le Credo. Considérons que cette période et ce moment où a été institué le Credo, considérons comme un miracle. C'est le miracle de l'unité. Passons maintenant au protestantisme. Je vous invite donc à poursuivre donc, le voyage dans le temps, mais je m'inscris volontairement et directement dans la Réforme, donc au XVIe siècle, car cette période est révélatrice d'un miracle. Ici aussi, le contexte historique et sa compréhension révèlent encore mieux son authenticité. Le contexte historique, le voici. Outre la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, on remet un peu les choses à l'ordre, enfin, 1492, je crois, c'est une réelle modernisation qui se fait jour. C'est Érasme qui remet à l'honneur l'étude des textes anciens. C'est Locke, peu connu, qui ouvre la voie vers le concept de liberté de conscience et l'idée de tolérance. Parallèlement, l'invention de l'imprimerie permettra de diffuser largement ces nouvelles idées, ces nouvelles ouvertures au monde. C'est par conséquent aussi la diffusion de la Bible et sa traduction. Et n'est-ce pas là un grand miracle? Et dans ce contexte, Martin Luther, moine théologien allemand, va mener une contestation de l'intérieur de l'Église. L'origine de cette contestation, c'est sa découverte du salut par la foi seule, à la lecture approfondie de l'Épître aux Romains. Saisi par cette conviction, il proteste. Il rédige 95 thèses qu'il affiche à l'église de Wittenberg en 1517, le 31 octobre. Il affirme son opposition au commerce scandaleux des indulgences. Il s'agissait de racheter son salut ou de remplacer ses pénitences par un don d'argent à l'Église. En réalité, cette pratique avait pour objectif de participer à la reconstruction de la cathédrale de Rome. Cette protestation va être largement diffusée par l'imprimerie pour se transformer en un profond mouvement de liberté, en adéquation avec les nouvelles idées qu'on a évoquées quant à la liberté de conscience. Luther bénéficiera même du soutien des princes allemands, qui à leur tour protestent, d'où le nom de protestants. Jamais la réforme n'aurait pu naître sans cet environnement hyper favorable. C'est donc un miracle historique, mais qui ne s'arrête pas là. Il faudrait évoquer la figure et l'œuvre de Jean Calvin, l'Édit de Nantes en 1598, la Confession de foi de La Rochelle. Bon, effectivement, si au niveau historique le miracle se poursuit, il est encore plus important de le considérer au plan doctrinal et théologique. Oui, le miracle, ce n'est pas Luther. Le miracle, c'est la découverte qui le bouleverse. Dans son cheminement, dans son combat, il cherche uniquement son salut. Son salut par la pénitence, par la vie monacale. Mais il ne trouve pas la paix. Or, une nuit, il découvre en romain ce verset, le verset qui est. Le juste vivra par la foi. Ça y est. Le salut n'est accordé que par la foi seule. Alors, il témoigne avec joie cette vérité qui trouvera un rayonnement certain auprès des hommes de son temps. Et voilà ce qu'il disait. Nous protestons et nous témoignons publiquement. Cette parole est la seule vérité. Elle est la norme assurée de toute doctrine et de toute vie. Celui qui bâtit sur ce fondement subsistera. Ce fondement dont parle Luther et qui subsistera, est le miracle doctrinal. Il se décline effectivement en trois principes que je rappelle brièvement pour mieux voir la profondeur d'ailleurs de cette découverte. Dieu seul, l'Écriture seule, la grâce seule. Dieu seul. Dieu seul est une façon de dire qu'entre Dieu et le croyant, il n'y a pas d'intermédiaire, ni prêtre, ni pasteur, ni église, ni saint. De cette conception découle celle du sacerdoce universel. L'Écriture seule, la Réforme a proclamé la Bible comme seule autorité, comme règle de foi. D'où le souci constant des réformateurs de traduire la Bible. La foi seule. Seule comme principe de salut. Le salut par la foi seule comme réponse à la grâce de Dieu, et qui s'oppose au salut par les œuvres. Au point où nous en sommes, notre conviction est certainement acquise quant au miracle du christianisme, quant au miracle du protestantisme, au bien fondé de ses principes. Si nous sommes convaincus du miracle de manière intellectuelle, En sommes-nous dans notre cœur? C'est par grâce que vous êtes sauvés, au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est donc Éphésiens 2, verset 8. Et en d'autres termes, la grâce de, le miracle de la grâce, bien traduit dans ce verset, est-ce qu'il nous parle personnellement? Je vous laisse bien sûr y réfléchir. Mais pour orienter notre cheminement et éviter de nous perdre, osons encore nous interroger. Dans le christianisme, dans la réforme, l'essentiel réside-t-il dans le contexte? Est-ce qu'il réside aussi dans l'autorité de la révélation des Écritures? Est-ce qu'il réside aussi dans un ou plusieurs hommes, tels que même Luther? Pour moi, aujourd'hui, où se trouve l'essentiel pour ma vie? L'essentiel, le miracle, ne serait-il pas dans la rencontre? Oui, Dieu nous rencontre. Voilà ce qui change tout. Ce n'est plus à moi d'aller vers Dieu. C'est Dieu qui vient toujours vers moi. Et ça n'est fini de ce Dieu qui fait peur, qui condamne, qui culpabilise. Le Dieu de la grâce, ce n'est pas la culpabilité. C'est la délivrance de toute culpabilité au travers de sa rencontre. Effectivement, Dieu est un Dieu de justice. Il juge. Non pas les hommes et les femmes, mais tout ce qui empêchera l'humanité de s'épanouir, d'être libérée du mal et de la souffrance. Oui, cette bonne nouvelle d'un salut par la grâce seule change beaucoup de choses. Elle change. Elle change aussi notre manière de penser la foi en Dieu. La foi, c'est d'abord et toujours ce mouvement de Dieu qui vient vers nous, qui nous prend, qui nous saisit. Alors c'est cette confiance que nous ressentons au plus profond de nous-mêmes, confiance envers ce Dieu, Dieu d'amour et de liberté. Cette rencontre est un événement. Elle suppose de la part de chacun de nous, une réponse qui sera déterminante pour notre existence. Et à ce sujet, écoutons ce qu'en dit Paul Ricoeur, philosophe du XXe siècle, qui a condensé la mécanique même de la rencontre. En premier lieu, la rencontre de l'événement, puis le retournement du cœur, puis d'agir en fonction. Fin de citation. Cette succession est pleine de sens. Le royaume de Dieu est comparé à l'enchaînement de ces trois actes. Laissez l'événement s'épanouir. Regardez dans une autre direction et agir de toutes ses forces en accord avec cette nouvelle vision. Notre rencontre, c'est donc cette révélation de la justice de Dieu, justice qui n'est autre que celle du Christ, qui, sur la croix, délivre l'homme, me délivre de la puissance de la mort. Avec cette découverte, et comme Luther l'a écrit, nous pouvons affirmer être nés de nouveau. Avec cette révélation, le salut par grâce, c'est ce qui permet de nous accepter nous-mêmes, même si nous ne sommes pas acceptables. Et Dieu, chaque fois qu'il est possible, Dieu agit. Il agit par grâce. Cette notion de grâce nous valorise, nous mobilise. C'est une manière de dire que l'humanité a de la valeur pour Dieu. La grâce est l'incarnation de Dieu. C'est un acte de solidarité profond avec le monde, pour le transformer, pour le sauver. La grâce est comme la main de Dieu tendue d'en haut pour nous sauver. La foi est comme la main tendue d'en bas pour être saisie par Dieu. Et dans sa grâce, le Seigneur nous justifie sans notre secours, sans notre concours, à cause du sacrifice accompli à la croix par Jésus-Christ. À cet égard, je vous laisse cet extrait du prologue de Jean. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Ce salut commence aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'attendre sa réalité dans le futur royaume. Le théologien et le pasteur Wilfried Monod, figure du protestantisme, écrit ceci. Avoir foi en Dieu, ce n'est pas une simple croyance intellectuelle. C'est un acte héroïque. C'est un enrôlement personnel au service de la vérité, de la justice, de la beauté et de l'amour. Fin de citation. Dieu nous donne son salut. Il nous donne sa grâce. Et c'est ce salut que nous incarnons dans nos engagements. Engagement pour le monde, pour un monde plus juste, plus fraternel, plus accueillant. Dans ce sens, la grâce est le miracle de la naissance et de la renaissance. Elle est aussi ce qui nous réveille à l'existence, nous redonne le courage d'être. La grâce, c'est le cadeau de l'Évangile. Elle t'est donnée. Alors agissons dans un engagement inspiré par le Saint-Esprit. Amen.